Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. À nouveau ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Alice Zénitaire, L'art de perdre. Ce sont les récents arrivés, comme Messaoud, qui donnent des nouvelles du bled, qui mettent des mots sur les peurs silencieuses. Ils servent de bulletins d'information aux enfermés. La population des allées s'assemble autour d'un homme sitôt qu'on apprend le nom du village ou de la ville dont il est originaire. Est-ce que tu sais ce qui est arrivé à mon frère, Taleb ? Et Malika, tu dois la connaître, elle avait la petite ferme à la sortie du village, juste avant le croisement. Tu sais ce qu'elle est devenue ? La maison est toujours debout ? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose à mon père ? Parfois, il y a des réponses qui guérissent. Je l'ai vu, tout va bien. D'autres qui tirent des gémissements. Ils l'ont envoyé à la frontière tunisienne pour le déminage. C'est une des punitions que le FLN a choisies pour les traîtres, déminer à main nue les frontières que les Français avaient truffées de pièges. Parfois, il n'y a que des questions à ajouter aux questions. Hamid, corps tendu de la pointe des pieds à la main qui cherche à gagner quelques centimètres en direction de la pomme, essaie d'attraper son dessert avant de se faire éjecter de la file. S'il crée un bouchon, on le chassera d'un coup de hanche, d'un coup d'épaule, ou même en l'attrapant sous les aisselles pour le poser plus loin comme l'enfant qu'il est, mais surtout comme si sa petite taille lui défendait d'être affamé, comme si ce n'était pas vraiment être vide que d'être vide dans un corps minuscule. Il a horreur du moment des repas où il doit réussir à tirer de la distribution de quoi manger, mais aussi de quoi nourrir Kader et Dalila, que sa mère lui confie. Il est l'aîné, le père de la fratrie. Il ne peut pas échouer. Sa main gagne un demi-centimètre et il sent sous ses doigts la peau lisse de la pomme. Malheureusement, au lieu d'agripper le fruit, il ne fait que le repousser. « Tiens, mon fils, un homme à la peau très mate, un presque nègre, comme les appelle Yema, à qui un demi-siècle en France ne pourra pas enseigner à prononcer le mot « quel noir » sans une moue dépréciatrice. Lui attrape la main, l'ouvre et y dépose la pomme. « Tu en veux une deuxième ?» Derrière la longue table de distribution, le jeune militaire proteste. C'est un fruit par personne. L'homme brun lui jette un regard qui le fait taire instantanément. La parole se coupe dans sa gorge avant même qu'il réalise qu'il a cessé de parler. L'homme referme la main sur un autre fruit, puis un troisième, sans que quiconque ne s'y oppose. Il entraîne Hamid avec lui un peu plus loin, le fait asseoir sur un carré d'herbe galeuse. Tant qu'on les laissera croire qu'ils nous font l'aumône, on n'arrivera à rien, dit-il au gamin, ou à lui-même, ou à un interlocuteur imaginaire que Hamid ne peut que deviner. Ce qu'ils nous donnent nous est dû. Il faut qu'ils le réalisent, et nous aussi, il faut que nous en soyons convaincus. Amik croque dans la pomme en hochant la tête. « Tu as quel âge, petit ?»«
Je suis né l'année des fèves, » répond Hamid.
C'est la dernière fois qu'il emploie cette réponse, les Français ne l'acceptent pas. Très rapidement, il va donner un âge chiffré, calculé à partir d'une date de naissance dont rien ne prouve qu'elle soit vraie, qu'elle n'ait pas été entièrement inventée au moment d'établir les papiers qui ont rendu la fuite possible. Pourtant, même si cette date est fausse, l'âge qu'elle permet de donner rassure davantage les roumis que l'information véritable qu'ils ne peuvent pas comprendre. L'année des quoi ? Et que Hamid apprendra bientôt à terre. Il croque avec joie dans la pomme, même si le fruit est farineux, gâté. Rapidement, il arrive au trognon et tourne la colonne centrale du fruit dans sa bouche pour en détacher les moindres morceaux de chair. Il opère des dents et de la langue une dissection minutieuse. Il ne recrache que les pépins et les fils internes. L'homme le regarde faire, en souriant. Hamid ne comprend pas pourquoi soudain Yema se jette sur lui en criant, pourquoi elle le tire par l'oreille, le ramène dans la tente, le gifle sous le coup de la colère et de la peur, s'excuse, le gifle à nouveau, l'embrasse, le secoue. Il se laisse faire, éberlué, tête, bras, jambes partant dans toutes les directions. Dalila se met à pousser de longs cris suraigus, sans nuance, une note à laquelle elle peine d'abord à s'élever, puis qu'elle tient longtemps pure à l'arme interne, corps-machine. Quand elle crie comme ça, elle n'est plus une enfant, elle est un système de survie.
« Tu sais qui c'est cet homme ?»
demande Yema à Hamid, tout en continuant de le secouer. «
Tu le sais ?»
Hamid se débat, proteste, il ne sait rien, sinon que l'homme lui a donné une pomme. Il s'aperçoit alors que les fruits qu'il avait pris pour son frère et sa sœur ont roulé hors de sa poche. Il veut partir à leur recherche, mais il ne parvient pas à échapper aux mains de sa mère.
« Plus jamais tu ne l'approches, celui-là. Tu m'entends ? Jamais !»«
Mais pourquoi ?» gêne le petit garçon.
« Ce n'est pas un homme, c'est une panthère, un démon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Tout ! Il a tout fait, ce que contiennent les cauchemars. Il est du commando Georges !»
3 ans auparavant, le démon qu'évoque Yema se tenait en ligne au milieu de ses frères d'armes et recevait une décoration des mains du général de Gaulle. La vidéo est passée aux informations nationales. On lui assurait qu'il était un héros. On lui disait que la France avait besoin de lui. On lui disait aussi que la France serait bientôt victorieuse. Toutes ces choses que l'on dit en temps de guerre, n'importe quelle guerre, à ceux qui courent le risque de se faire crever la carcasse. La force, les mots avaient dû être usés, pourtant le démon y croyait encore. Il serrait des mains avec enthousiasme. On le remerciait à demi-mot de bien vouloir tuer et torturer parce que le commando Georges, malgré sa devise « chasser la misère », chassait surtout les humains et qu'il y excellait. Aujourd'hui, le bref héros du journal télévisé de 1959 se trouve derrière des barbelés. Bien sûr, l'Algérie le hait. Bien sûr, la France ne le connaît pas. Il s'y attendait depuis qu'on a désarmé son commando en mars. Ce qui le surprend, c'est que même ici, les autres le craignent, le fuient et le méprisent. Il existe à Rivesaltes une hiérarchie du crime qui l'exclut de la vie commune. Dans la société du camp, comme en Algérie, la sortie de guerre signifie qu'il y a des comptes à faire, des comptes à régler. Et dans l'immobilité de Rivesaltes, les rapatriés ont le temps de les examiner. La plupart de ceux qui sont ici nient avoir trahi, avoir fait mal. Ils rêvent d'une chance de s'expliquer avec l'Algérie, de présenter une défense. « Mais j'ai pas tué, j'ai pas torturé, qu'est-ce qu'on me reproche exactement ?» Parfois, entre eux, ils se jouent ces procès imaginaires. « Si tu étais Ben Bella, disent-ils, je t'expliquerais tout. » Et même si l'interlocuteur en face connaît déjà l'histoire, il la raconte à nouveau, s'expose au jugement en espérant la grâce qui vient presque toujours. Pour les membres du commando Georges, en revanche, parler ne les exposerait qu'à la condamnation. Et ils ne s'y risquent pas. Ils ont fait le mal trop publiquement pour pouvoir ensuite s'en défendre ou plaider les circonstances atténuantes. Ils ont fait le mal télévisuellement. Ils ont creusé leur tombe.
Après leur avoir attribué une trentaine de médailles et près de 400 citations, les autorités françaises ont refusé leur rapatriement. Ceux qui n'ont pas réussi à fuir clandestinement l'ont payé cher. Même ici, ça se sait. Le FLN a réussi à mettre la main sur beaucoup d'entre eux. Le lieutenant qui dirigeait le commando, la population l'a ébouillanté vivant pendant l'été. C'est une scène qui paraît tirée des vieux films de Tarzan, des BD de Tintin au Congo ou de la première trilogie de Star Wars. Un homme ligoté dans une marmite géante sous laquelle le feu crépite, alors que tout autour, la population hurle sa joie farouche. Jugé traître parmi les traîtres et criminel parmi les criminels, le lieutenant méritait la mort la plus douloureuse. La décision de son mode d'exécution a été, j'imagine, difficile à prendre. Personne n'a pu, revenu de morts diverses et successives, présenter d'études comparatives. Je ne sais pas qui a suggéré qu'on l'ébouillante, c'est original. On ne parle pas à ces gens-là, à Saint-Yéma, à destination de Hamid, comme des autres enfants. On ne les approche pas, c'est clair. Les Français qui encadrent le camp ne comprennent pas pourquoi les hommes s'y battent autant. Certains sont prompts à y voir des habitudes d'Arabes. D'autres parlent des perturbations que cause le déracinement. D'autres encore pointent du doigt les insuffisances de cette ville précaire. Ils ne semblent pas voir qu'ils n'ont pas enfermé ensemble des gens ayant une cause commune. Pour Yéma, un membre du commando Georges est un monstre. Pour Ali, un partisan de Messali Hadji est un fasciste de l'arabisation. Pour les indépendantistes rivaux du FLN, comme pour les anciennes élites francisées, Ali n'est jamais qu'un pecno égoïste et ainsi de suite. Les antagonismes sont exacerbés par la proximité constante qu'exige la vie du camp. Les insultes partent vite, les coups de poing aussi, plus rarement les coups de couteau, encore qu'il arrive qu'une lame, sortie on ne sait d'où, se mette soudain à briller dans la main qui frappe. L'administration trouve dans la distribution de neuroleptiques à grande échelle une réponse rapide et efficace aux flambées de colère qui ponctuent les allées. Lorsque les médicaments ne suffisent plus, elle les redouble d'un séjour à l'hôpital psychiatrique. Hamid s'habitue à la présence des gros corps blancs des ambulances garées entre les baraques. Il envoie parfois descendre des créatures étranges au regard vide, au visage brouillé et mou, à la tête couturée qui ressemble, vaguement, si vaguement, à des hommes. De cela, on dit à voix basse qu'ils ont trop crié, qu'ils devenaient gênants. Alors le toubib a pris soin d'eux. Au nom du calme et de l'ordre, ils sont envoyés par les médicaments ou la lobotomie à l'endroit où poussent les racines du brouillard. Ils n'en reviendront jamais.
يشرق يطش في الصفات اي غار غسي ونوسكن اي قدار ينشفنا بمدن في اللاس اوريس المسكن ومهار مكشم غريه اي قزمي ذريت نصف اساس غسي موت ما تشين يارا ما زكار ذكره ما سا فاصر ما شحال ذا جيه مغنينا يتوج ذا يولي يسمد يبضو حما أنو فزيه غير يبذني تمانا Thank you. الأوراق ثارس الثافة تسقيني ينهز وذرر يطرغق سي الزهير ورغيب أنا نسي داج جيكي غاق يعرق هذايني روحة وزر نساني رفض انت صقذن انت فاذا وذي يزدغنا كيمي وهو ذي من ايان هذا ممزور يد الثوياثا هذا البرق سكفوس ليلة حور يفكنتي ويقره المرياث قر يثرن يراث اقارسنا هذي ذهوما هلا يرقضك جن ولاثا يا مسكين يوبادت نتسور مسديت هنا وتا هاي نوار يزمر حدث يمحو مات ولا مثل ومثل تفاد هدانا سفرون ماث ولا مثل ومثل تفاتا يشفو تذنات سغد هدانا
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Alice Zénitaire, l'art de perdre. À vivre séparé du ciel comme du sol par des couches trop minces, les familles de Rivesaltes connaissent une existence que la météo détermine et déforme. À la fin de l'automne, des pluies torrentielles s'abattent sur le camp. Contre la toile de tente, les gouttes cognent encore et encore dans un fracas formidable. La première nuit d'averse a mis de deux faits aucune différence entre les sons et les rafales sans cesse répétées de la pluie l'inquiète.
« Ils peuvent vider leurs mitraillettes !» le rassure Mandrake. « Alors que le petit garçon sombre dans le sommeil, ils ne m'atteindront pas !»
Le lendemain, il commence à distinguer les différents bruits de la pluie. Sur les tôles et les toiles différemment empilées, c'est toute une symphonie de gouttes qui s'abat, résonne, se double en croche, s'alourdit en roulement. Au bout d'une longue nuit d'écoute, il apprend à les reconnaître. Et il peut visualiser la manière dont elles s'écrasent au-dessus de lui. Presque machinalement, le petit garçon sort ses mains de sous la couverture et de ses gestes invisibles dans le noir, il s'improvise le chef d'orchestre de l'orage. Un matin, il apprend qu'il a tellement plu qu'un torrent de boue a emporté 4 tentes. Il regrette d'avoir dormi lors de la catastrophe. Il aurait voulu voir les flots avaler les frêles constructions et la misère de Rivesaltes acquérir une dimension dramatique qui l'aurait rapproché des bandes dessinées. L'hiver 62 est particulièrement froid. Parmi les Algériens du Sud et de la Plaine, beaucoup voient la neige pour la première fois. Stupéfaction devant ce ciel blanchâtre et laiteux qui s'émiette sur le camp en flocons. Des enfants pleurent d'effroi quand la neige entre en contact avec leur peau. D'autres rient et ouvrent la bouche, agglomèrent dans leurs petits poings des glaçons compacts pour pouvoir les susauter longtemps. Quelques heures plus tard, ils sont saisis de crampes d'estomac. Hamid connaît trop bien la neige pour s'émerveiller de sa venue soudaine, et puis sa mère a besoin de lui. Pendant que les autres gamins courent dans tous les sens, il l'aide à disposer autour de la tente des gamelles en aluminium de la famille. Quand elles sont pleines, Yema fait fondre la neige sur le petit réchaud et la conserve dans des jerrycans. Les tuyaux ont gelé dans les blocs sanitaires et le camp connaît sous la neige des pénuries d'eau répétées. À partir de bidons découpés, Ali fabrique un poêle à charbon de fortune. Ça sent la peinture brûlée et les enfants tous. C'est mieux qu'à côté, chez Younes. On ne sait pas quel produit chimique a contenu son bidon, mais ça pue la mort quand il veut se chauffer. Les hommes installent aussi des braseros à l'extérieur pour pouvoir continuer à discuter hors de l'espace réduit et encombré des habitations. Les mouvements des allées sont étonnants, vus de haut. Les marcheurs ne se déplacent que de feu en feu, sauts de puces tremblants que l'on fait en se frottant les mains, en haletant petites goulées d'air glacé qui descendent à peine dans la gorge. Il fait trop froid pour s'éloigner vraiment des flammes. La mobilité est réduite, morcelée par les haltes. Les habitants du camp développent une sociabilité de l'urgence et des frissons. Ils ne regardent pas qui se trouve près du feu. Quand le froid les mord trop, ils s'agrègent au cercle le plus proche et se retrouvent épaule contre épaule avec des inconnus qu'ils ne saluent qu'après s'être soigneusement glissés auprès d'eux. Pour aller aux douches, enfin installé de l'autre côté du camp, sans cesse hors service, Hamid doit prévoir 3 arrêts. Avant de quitter sa tente, il liste les emplacements de braseros disponibles sur son trajet, devant chez Ahmed, devant l'infirmerie, devant la benne. Il fonce, buée blanche de son souffle, si épaisse qu'elle paraît ralentir son haleine. Très vite, sous les pas pressés des marcheurs, la neige se change en une boue glaciale et collante qui refuse de se détacher des semelles. Pour le protéger du froid, Yema double les chaussures et les vêtements des enfants de feuilles de journaux. Elle déchire ce qui lui tombe sous la main. Et peut-être que parmi ces publications qu'elle est incapable de comprendre se trouvent quelques numéros du Travailleur catalan, que Naïma lira plus tard lors de ses recherches, et qui exhorte la municipalité de Rivesaltes à se débarrasser des mercenaires et des racailles hébergés dans le camp. Les mots importent peu à Yema. C'est le papier qui compte. En couches suffisamment épaisses, les quotidiens locaux coupent non seulement de la morsure de l'hiver, mais constituent aussi de parfaits boucliers qui permettent aux petits de se frapper le ventre sans que la douleur ne les plie en deux. Ils combattent dans les bruits sourds du papier journal martelé et les cris de vengeance. Pour être sûr que Mandrake ne subisse pas le sort honteux qui consiste à retapisser ses galoches dégoûtantes, Hamid cache soigneusement les bandes dessinées entre plusieurs épaisseurs de bâches sur le haut de la tente. Le magicien prend l'humidité et se gondole, mais il résiste au passage de l'hiver. Au printemps, avec la fin des températures glaciales, le territoire de chacun s'accroît. Hamid peut recommencer à traîner sans but et sans halte. Kader le lapin magique reprend lui aussi du service et le voilà qui bondit, qui bondit, qui bondit. Des tentes, on retire une à une les bâches accumulées pendant l'hiver qui donnaient l'impression d'habiter une maison oignon faite uniquement de pelures. Dans le soleil tiède et la boue qui s'assèche, le camp recommence à ressembler à un camp. Quand Hamid et sa famille sont finalement envoyés à Jouk, dans un hameau de forestage nouvellement ouvert, le petit garçon réalise avec une lente stupeur qu'ils viennent de passer 8 mois à Rivesaltes. À l'exception des variations météorologiques, il a l'impression de n'avoir vécu qu'une seule journée, sans cesse répétée. Tu seras content, lui dit un gendarme au moment du voyage. Ça ressemble un peu à la Kabylie, là-bas. Les lettres du préfet de Bouches-du-Rhône, dont Naïma a retrouvé des photocopies, désignent le camp de Jouk par le nom de Cité du logis d'Anne. en hommage à une bergère devenue sainte sur laquelle elle ne trouve aucune information. Créé en 1948 près des rives de la Durance et de la RD96 pour les ouvriers occupés à creuser le canal de Provence, il a accueilli les Harkis à partir de 1963. Et présenté comme un hébergement provisoire lui aussi, il n'a fermé qu'en 1988. Aujourd'hui, il n'en reste rien. À son retour d'Algérie, Naïma voudra voir l'endroit où son père a passé près de 2 ans. Et elle roulera le long de l'A51, franchira le pont de Mirabeau, accoté aux anciennes piles construites en 1845 et restées debout devant la falaise de Cantéperdri, avec leurs doubles tours et leurs arches de pierre beige qui s'affinent au gré des étages, belles et étranges comme un élément de décor oublié par Peter Jackson à la fin du tournage du Seigneur des Anneaux. Elle ne verra de l'emplacement du hameau forestier qu'un portail vert foncé fermé par une chaîne, derrière lequel se trouve, elle ne comprend pas pourquoi, un gros rocher taché de peinture rose fluo. Tout le site est entouré de grillages. Elle cherche à apercevoir ce que les clôtures abritent, mais il lui semble que la route qui part du portail ne mène nulle part, sinon dans les pins et la broussaille. À droite de l'entrée, entre la départementale et le grillage, se dresse le mémorial érigé en 2012. Haut de presque 5 mètres et habillé de marbre, il représente, je l'ai lu quelque part, une porte de style oriental où, approchant de loin, Naïma trouve qu'il a l'air d'une serrure géante qui porterait des cornes. Elle cède des barreaux du grand portail pour se hisser au-dessus du grillage. La clôture métallique s'agite éteinte au gré de ses mouvements désordonnés. Quand elle est de l'autre côté, elle marche tout droit, de plus en plus loin dans les pins. Il n'y a rien. La route s'arrête. Naïma continue dans les herbes, monte la pente sur laquelle poussent des arbres maigres. En se baissant vers le sol, en écartant les ronces et les fourrés, elle tombe sur des traces de la vie antérieure. Bras d'une poupée devenue grisâtre, détendeur de bonbonnes de gaz, bouche d'égout ouverte dans le sol. Signe de civilisation anachronique, là où la végétation a repris tous les droits. Une fois en haut, elle se retourne et voit la Durance qui serpente grassement, reflet laiteux bleuté entre les rochers pâles. Elle entend les cigales qui stridulent régulièrement sur les troncs des arbres, invisibles luttes à la couleur d'écorce. Cette vue-là, ses sons, sûrement, elle les partage avec Hamid, avec Ali, malgré les années. Ils habitent désormais des logements de bois, de fibrociment et d'amiante construits 15 ans plus tôt. Ceux qui sont logés les plus près de la route ont droit à des préfabriqués jaunes et blancs dotés d'un étage dont l'aspect hésite entre le bungalow de vacances et la cabane à outils. Dedans, ils sont souvent une dizaine. Ali et Yema ont de la chance, ils vivent avec leurs 3 enfants et l'oncle Messaoud. 6, ce n'est pas tant. Quand même au matin, ça sent les pets des gamins et la sueur des endormis. Dans les petites maisons trop pleines, avant qu'elles s'aperçoivent que le liquide mange toutes les couleurs, les femmes récurent chaque centimètre carré à la javel, dont les assistantes sociales leur ont garanti qu'en termes de propreté, c'était le must. Le bois, les mailles, les vitres et le plâtre, tout y passe. Yema et les voisines discutent même de la possibilité de rincer avec le liquide magique les fruits et les légumes. Seule la crainte que la javel ne contienne de l'alcool les en dissuade. Yema veut que son logis minuscule soit impeccable, qu'il soit le plus propre de tous. C'est sa manière à elle de refuser la pauvreté, de remplacer une hiérarchie par une autre en haut de laquelle elle puisse encore trouver une place. Chez elle, on ne verra aucun mouton de poussière, aucune jeture de mouche, aucun reste de nourriture caché sous un pied de table, aucune dégoulinure sombre sur la surface lisse des meubles en formica. chaque portion qu'élastique devient sienne.
Elle va user les murs, dit Ali à ses voisins.
Mais le règlement du hameau, imposé par les autorités françaises, comme le proclame la première ligne du document qu'on leur a lu dès leur installation, stipule que la propreté est une des conditions sine qua non de leur séjour. Alors Ali laisse Yema gratter la maison.
Voilà, donc nous avons terminé pour ce soir le passage de ce roman de Alice Zénitaire, L'art de perdre, que nous retrouverons et terminerons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.